aide les entreprises à recruter le profil qui correspond vraiment à leurs besoins, notamment avec le service Sourcing Plus. Cet accompagnement personnalisé a permis à Eurogroup Consulting de recruter 3 talents seniors. Un service gratuit à retrouver sur apec.fr.
Une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Avec le 3044, vous êtes sûr de parler à un vrai conseiller Carglass et l'appel est gratuit. N'oubliez pas, une urgence sur votre pare-brise ? Appelez Carglass au 3044.
3044.
Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Il est 15h sur Europe 1. Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Aucune piste n'est écartée, assurent les enquêteurs. Kenji Girac a été gravement blessé par balle cette nuit à Biscarrosse, dans les Landes. Le chanteur, touché au thorax, évoque un accident domestique. Il dit avoir manipulé une arme achetée dans une brocante. Kenji Girac, qui n'a pas été entendu encore par les enquêteurs, il s'est confié aux secours qui l'ont pris en charge. Une enquête a été ouverte. Gabriel Attal veut investir davantage dans la prévention pour éviter aux jeunes de sombrer dans la délinquance. Le Premier ministre a lancé ce matin l'expérimentation d'un internat d'un genre nouveau, un internat pour les élèves en décrochage. Pendant leurs vacances, ils pourront profiter de cours de soutien scolaire et d'éducation civique. Le gouvernement durcit les conditions d'accès aux aides familiales. À compter de 2025, il faudra passer au moins 9 mois en France et non plus 6 pour en bénéficier. Maïlène Trémollet, cette mesure était réclamée depuis presque un an par le ministère du Budget.
Oui, c'était une mesure voulue en 2023 par Gabriel Attal, alors ministre délégué chargé des comptes publics. Il avait fait de la lutte contre la fraude l'une de ses priorités, comme il l'avait expliqué au micro d'Europe 1.
Moi, je souhaite qu'on relève la condition de résidence pour toucher les allocations sociales en France, résidence sur l'année. On passe tout à 9 mois pour bénéficier des allocations sociales. Ça sera à compter de 2024. 1 euro soustrait à la solidarité nationale, c'est de l'État qui recule.
Concrètement, les aides concernées sont par exemple les allocations familiales, la prime à la naissance d'un enfant ou encore la prime vieillesse. Dans l'entourage du Premier ministre, on se félicite de la mise en application rapide d'une mesure de fermeté, une mesure pour d'une part plaire à la droite, mais aussi montrer que le gouvernement est au travail dans la lutte contre la fraude sociale. On ne peut pas laisser le Rassemblement national dire qu'on ne fait rien, explique un conseiller de Matignon qui ajoute « L'objectif, c'est de faire plus et d'aller plus loin. La fraude sociale que le Premier ministre qualifie d'impôt caché est évaluée à plus d'un milliard d'euros pour 2023. »
Maïlène Trémollet du service politique d'Europe 1. En pleine guerre à Gaza, le chef du renseignement militaire israélien a présenté sa démission. Il dit assumer sa responsabilité après l'attaque du 7 octobre en échouant à l'anticiper. Israël qui va augmenter la pression militaire et politique sur le Hamas. Seul moyen, selon Benjamin Netanyahou, de remporter la victoire contre les terroristes et d'obtenir la libération des otages. Le Kremlin prévient que la Russie prendra des mesures pour garantir sa sécurité si la Pologne accueille des armes nucléaires sur son territoire, possibilité évoquée par le président polonais si l'OTAN décidait de renforcer son flanc est. Et puis le procès en appel de l'attentat de Nice s'est ouvert ce matin, attentat qui avait fait 86 morts le 14 juillet 2016. 2 hommes sont rejugés pour complicité, ils avaient été condamnés à 18 ans de réclusion en première instance.
Europe 1.
15h03 sur Europe 1, historiquement votre, c'est maintenant.
15h, 16h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Merci Quasimodo.
J'ai appris que dans la vie gouvernementale, comme dit Jacques Dutronc, il y a des cactus.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque jour à 15h et pendant une heure, je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars des personnages, mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée, ou des événements marquants et que j'ai choisi de vous raconter.
Et aujourd'hui, de 15h à 16h sur Europe 1, c'est un historien le plus célèbre du 19e siècle que Stéphane Bern nous fait découvrir dans son récit du jour.
Cet après-midi, je vous raconte un enfant de la Révolution française qu'il a raconté en 7 volumes dans une œuvre qui a fait date au milieu de beaucoup d'autres et de son histoire de France notamment, ou la véritable histoire de Jules Michelet, le père du roman national. Qu'est-ce qu'un historien selon Jules Michelet ? En quoi l'homme a-t-il renouvelé la discipline historique ? Qu'est-ce que ce fameux roman national ? Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, j'ai le plaisir d'accueillir une professeure de littérature du 19e siècle à l'Université Paris Cité, spécialiste de l'œuvre de Jules Michelet. Bonjour, Paul Petitier.
Bonjour Stéphane Bern.
Paul Petitier, l'histoire de France, œuvre colossale de Jules Michelet, a été maintes fois éditée, rééditée. Pourquoi fait-elle référence et pourquoi faut-il la lire ?
Je pense qu'elle fait référence parce que Michelet a su donner une dimension sensible au passé. C'est-à-dire qu'il a su présenter chaque époque comme un tout dans lequel les aspects matériels, la civilisation matérielle, est indissociable de l'imaginaire, des représentations, de l'organisation politique d'une époque. Et cette manière de concevoir une histoire globale, d'une certaine manière, est restée l'idéal des historiens jusqu'à aujourd'hui.
C'est important de continuer à lire Jules Michelet.
Je pense que c'est se ressourcer dans une histoire qui commençait au moment, enfin une histoire moderne, qui commençait au moment où il l'a écrite, mais qui est encore une sorte d'incubateur d'idées pour renouveler la discipline.
On va continuer à parler ensemble de Jules Michelet, Paul Petitier, juste après mon récit.
Europe 1,
15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Nous sommes le 29 septembre 1849 au Palais Soubise à Paris où sont installées les archives nationales. Jules Michelet, qui en est alors le directeur de la section historique, fait l'inventaire d'une armoire de fer qui contient d'inestimables documents et reliques de la Révolution française. À 51 ans, cela fait maintenant près de 19 ans, que l'historien en pleine écriture de sa monumentale histoire de la Révolution travaille aux archives nationales. Et lorsqu'il ouvre cette armoire, il tombe sur un papier griffonné, taché de rouge, la dernière lettre du Girondin Pétion à sa femme avant son suicide. Pour reprendre ses mots, la vue de ces papiers tout sales encore, avec leurs moisissures et comme échappés du cercueil, le saisit presque autant que s'il avait vu les corps mêmes à moitié mangés par les chiens. Il en restait tout saisi et muet pour le reste du jour. Michelet, l'historien prophète, veut faire de l'histoire une résurrection et s'inspire du grec Plutarque qui surprend les grands de ce monde dans leur intimité lorsqu'ils ne sont pas arrangés pour paraître. Michelet a su rentrer dans l'intimité de l'histoire afin de redonner une voix inouïe à tous ces morts endormis. En 1833 déjà, Michelet racontait que dans l'épaisseur du silence qui emplit les galeries de l'hôtel des archives, il croit entendre des murmures et des voix s'élever. Ces parchemins laissés là depuis longtemps ne sont pas des papiers, mais des vies d'hommes, de provinces, de peuples, écrit-il. Et à mesure que je soufflais sur leur poussière, je les voyais se soulever. Ils tiraient du sépulcre qui la main, qui la tête, comme dans le jugement dernier de Michel-Ange ou dans la danse des morts. Jules Michelet invente une histoire de l'intérieur, presque viscérale, celle du peuple, des femmes, des pauvres, des anonymes, des oubliés, qui dépasse largement la plate chronique des puissants qu'ils tentent de remettre à leur juste place. Anticipant l'histoire totale et l'histoire des mentalités, Michelet dévore l'histoire. J'ai bu trop d'amertume, j'ai avalé trop de fléaux, trop de vipères et trop de rois, écrit-il, comme électrisé par tous ces morts qu'il tente de digérer. Et derrière ce style flamboyant et poétique, Michelet renouvelle la connaissance historique en s'appuyant sur des sources inédites, comme le souligne notre invité, sa biographe, Paul Petitier. Mais qui d'autre aujourd'hui peut prétendre, pour reprendre l'expression de Michelet, faire parler les silences de l'histoire, ces terribles points d'orgue où elle ne dit plus rien et qui sont justement ses accents les plus tragiques? Et qui n'aurait pas rêvé de l'avoir comme professeur d'histoire? À côté des jeunes normaliens qui l'écoutaient fascinés, c'est aussi la princesse Clémentine, fille de Louis-Philippe, qui a eu cette chance.
Et c'est justement ce que nous allons découvrir cet après-midi sur Europe 1 avec Stéphane Bern qui, vous l'avez compris, nous raconte Jules Michelet, 15h-16h, c'est historiquement vôtre. À tout de suite.
Bonjour, c'est Sophie Davant.
Sophie et les copains.
Dans Sophie et les copains, on sait que vous adorez la musique, alors j'ai décidé de vous préparer une émission spéciale. Classique, rock, jazz, disco, chansons françaises, années 80, 90, 2000. Nous allons jouer et chanter ensemble. Et pour l'occasion, nous accueillerons une invitée qui connaît bien la chanson, Nicoletta.
Sophie et les copains.
On se retrouve tout à l'heure, de 16h à 18h, sur Europe 1.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez sa vaste et laissez-vous étonner par ses dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 536 €.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divan et de qualité.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Bonjour Anne, vous êtes aidante.
Oui, depuis 2 ans, maman est seule et je passe la voir tous les jours pour l'aider et qu'elle puisse rester chez elle.
Parlez-moi d'Intégrance.
Intégrance, c'est la mutuelle de maman et c'est aussi la mutuelle qui prend soin de moi. Entre maman, les enfants, mon travail, ça devient compliqué pour moi. Intégrance nous propose des solutions, ça nous aide beaucoup toutes les deux.
Comme Anne, presque 1 salarié sur 4 aide un de ses proches et s'expose à un épuisement physique et psychologique. Aidant, senior ou employeur, faites-vous aider. Rendez-vous sur intégrance.fr.
C'était bien ce leasing électrique. Ça rendait vraiment la voiture électrique accessible.
Oui, mais Fiat n'a pas attendu ça pour être accessible.
What?
Bah, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous.
3 000 € de remise en plus?
Et la Fiat 500 électrique est à partir de 79 € par mois seulement.
Plus de prise de tête. On file chez Fiat.
Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. LLD 37 mois, apport de 2 650 €, bonus éco 4 000 €, remise éco Fiat 3 000 € et prime à la conversion de 1 500 € déduits si accord crédit part jusqu'au 30 avril. Détails sur fiat.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Fiat. Europe 1.
15h-16h.
Historiquement vôtre.
Et toujours avec Stéphane Bern sur Europe 1, qui nous raconte cet après-midi Jules Michelet, le père de l'histoire de France, à qui l'on doit notamment la monumentale histoire de la Révolution. Père de l'histoire, oui, et professeur de la princesse Clémentine, la fille du roi Louis-Philippe aussi.
Depuis la rentrée 1830, oui, Jules Michelet, qui est déjà un historien respecté, se rend régulièrement aux Tuileries pour donner des leçons particulières d'histoire à la 3e fille du roi, âgée de 13 ans. Celui qui vient d'être nommé directeur de la section historique des Archives nationales enseigne aussi l'histoire de France à l'École normale supérieure et bientôt à la Sorbonne. Et il semble être passé complètement à côté de la Révolution de juillet de 1830 à Paris. Pas une trace dans son journal, ni des insurgés, ni des barricades. Enthousiaste pour le résultat, Michelet n'a cependant pas pris de fusil pour faire le coup de feu. Déjà en 1814, l'arrivée de Louis XVIII laisse le jeune Michelet, 16 ans, dans une relative indifférence, puis ce sera la mort annoncée de Napoléon à Paris le 9 juillet 1821 qu'il scande d'un laconique « Bonaparte est mort » dans son journal. Je rappelle que Napoléon est mort le 5 mai, mais on l'a appris évidemment seulement en juillet. Cette position d'expectative ne l'empêche pas de ressentir la pesanteur du régime de la monarchie de juillet. Et lorsqu'en 1837, Jules Michelet pardonnait ses leçons d'histoire à la princesse Clémentine au palais des Tuileries, il traverse les grands appartements, le salon, la salle de bal et la salle des maréchaux avant d'accéder au petit boudoir blanc de la duchesse qui donne sur la rue de Rivoli. Michelet ressent comme un décor irréel voué à être renversé, comme un écho à l'incroyable journée du 10 août 1792 qui a vu la prise des Tuileries et la fin de la monarchie. Vous l'aurez compris, Michelet est comme soustrait au temps. Paul Petitier, dans son édition critique de son histoire de la Révolution française, parue dans la Pléiade, explique que la trame de sa vie n'est faite que du travail, des rencontres, des petits mots du quotidien, des éléments insignifiants. Mais il y a pourtant chez Michelet quelque chose d'un super-héros qui, une fois enfermé dans son bureau, s'anime d'une sorte de transe. On l'imagine se métamorphoser en acteur héroïque de l'histoire de France avec ses tremblements, ses nausées et ses indigestions. Avant de s'attaquer à l'histoire de la Révolution française, il débute sa monumentale histoire de France en 1833 et la terminera 36 ans plus tard, en 1869, après 17 volumes et 20 siècles parcourus à la rame, pour reprendre son expression. Une épopée hors du commun et, à le croire, une marche aveugle, tout empoissée dans une substance historique ingrate. Au cours de ce voyage fantastique dans la France de l'intérieur, Michelet palpe et ausculte les corps dans une histoire à la fois partielle et subjective, mais aussi profonde, intuitive et multidimensionnelle. Comment résister à ces incroyables portraits, comme celui de la femme du roi Philippe V d'Espagne, bien empâtée de beurre, de parmesan. Tel un psychologue clinicien, on le voit observer le spongieux Vendôme et goûter au roi sans aucune délectation. Louis XIV est de sang noir, pourri de vent et d'âcreté, tandis que Louis XVI est pâle et bouffi. Comme l'explique le critique Roland Barthes, auteur de Michelet par lui-même, les rois ne sont pas condamnés, mais vomis, et forment une véritable pharmacie de l'écœurement. Pour Michelet, Les puissants ne sont que des obstacles à l'expression du peuple et ils ne voient dans l'Ancien Régime qu'une mer superbe de sottises où, je le cite toujours, les dieux crevés, les rois pourris ont apparu sans voile. Si son portrait de Louis XI marque un tournant dans l'historiographie, il s'intéresse également, je vous le disais, aux oubliés de l'histoire, les paysans, les enfants, les femmes, notamment les sorcières, et Jeanne d'Arc, dont il fait une héroïne du peuple. Ce qui l'intéresse dans le Moyen-Âge, c'est la vraie vie dans ce qu'elle a de plus cru, les corps, le sexe, les maladies, les objets du quotidien, qui font de lui un véritable ethnologue de la France avant l'heure. On lui doit également l'invention du concept de Renaissance, produit d'un choc entre la France catholique et médiévale et une Italie hautement civilisée. Et de l'étincelle produite par ce choc, écrit Michelet, est née cette colonne de feu qu'on appelle Renaissance. Son cours à la Sorbonne entre 1834 et 1835 et ensuite au Collège de France à partir d'avril 1838 se font naturellement l'écho de ses livres et de ses préoccupations. En 1843, Michelet lance une virulente campagne contre les jésuites qu'il accuse de s'opposer aux forces vivantes du peuple par un asservissement spirituel et une emprise sur les femmes. Puis en janvier 1846, il fait un cours sur l'esprit et la portée de la Révolution. À 47 ans, Jules Michelet est devenu la coqueluche du tout Paris et les étudiants se ruent au Collège de France pour le voir et surtout l'écouter. La femme de son ami Edgar Quinet, qui assiste à son cours, dit qu'il ressemble à Voltaire d'après le buste de Houdon et parle de la figure mobile de Michelet, sillonnée de rides précoces, des cheveux blancs et des yeux qui lançaient des éclairs de malice et de gaieté. Il affronte son auditoire comme un lutteur qui manie la fronde et la balance longtemps pour mieux lancer des cailloux. Sa voix grave et roucoulante, disent d'autres témoins, est rythmée de pauses songeuses et d'envolées soudaines, comme s'il pensait en musique, comme si au travers de sa voix s'esquissait la mélodie du peuple. Le peuple, qu'il considère comme le grand personnage de l'histoire et dont il a commencé à écrire le récit en septembre 1845.
Et restez bien avec nous sur Europe 1. Stéphane Bern nous raconte dans un instant la suite du destin de l'historien Jules Michelet. C'est dans Historiquement Vôtre et c'est sur Europe 1.
Europe 1, 15h-16h.
Historiquement Vôtre.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Verisure, la protection adaptée à chacun.
Avec un enfant à la maison, vous avez besoin de vous sentir en sécurité et accompagné.
Verisure vous offre une protection contre les intrusions et les accidents domestiques. Nos agents réagissent en quelques secondes et alertent les services d'urgence. Rendez-vous sur verisure.fr pour profiter de moins 50% sur nos packs. Offre soumise à conditions. Un service opéré par Verisure, société agréée CNAPS.
Chers concitoyens, Akena fabrique tous ses produits en France pour une empreinte carbone réduite. Akena vous garantit qualité et durabilité. Votez pour l'avenir. Achetez Akena.
Je peux pas, je suis déjà reine.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Hé, hey, trop de boulot. Tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte?
Ah oui, ici on a le top de la couverture. Hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
Europe 1, 15h-16h.
Historiquement Vôtre.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1, toujours avec Stéphane Bern qui nous raconte sur Europe 1 la véritable histoire de Jules Michelet, devenu la coqueluche du tout Paris, dont les étudiants suivent assidûment les cours au Collège de France. Il consacre son temps à l'histoire de France. Il se lance aussi en 1845 dans le récit de celui qu'il considère comme un grand personnage de l'histoire, le peuple.
Cette année-là, Michelet poursuit sa mue et tente de se défaire de son statut de professeur. À travers de multiples voyages en France, il part à la rencontre des habitants, à la recherche de cette tradition orale chantée par Béranger dans les rues, les goguettes ou durant les repas de famille. Cette langue qu'il tente d'approcher est un vaste dépôt de l'inconscient collectif, ce qu'il appelle la tradition nationale. Michelet ne supporte plus les lettrés qui devraient se faire illettrés, dit-il, descendre de leur chair pour entendre à quel point le peuple résonne avec beaucoup de force et de finesse, mais par ellipse rapide et pleine de sous-entendus, contrairement à la science résonnante qui se croit la reine du monde. Michelet, l'amoureux du peuple, se met à parler à tout le monde et s'intéresse absolument à tout, raconte son gendre Alfred Duménil. En l'absence d'une méthode sociologique constituée, explique sa biographe Paul Petitier, Michelet consulte les statisticiens, les enquêteurs sociaux et pioche dans les enquêtes sur le monde ouvrier. Il fait même relire ses textes par des spécialistes qu'il nomme à l'époque des hommes spéciaux. Rien ne l'arrête, avec en tête ce qu'il déclarait déjà en 1842 comme un programme, faire l'histoire de cette pauvre créature muette dont personne ne s'est soucié, l'histoire de ceux qui n'ont pas d'histoire. Avant d'ajouter, prophétique, que ce grand peuple souffrant et silencieux n'est autre que nous-mêmes. Si Michelet a bien l'air d'appartenir à l'élite, tout le monde comprend qu'il est bien issu lui aussi de ce peuple à qui il consacre donc un essai. Il y a quelque chose de rousseauiste dans son attitude, dans son rapport aux autres. Nulle condescendance. Il retrouve cette absolue sincérité, cette naïveté intégrale qui inspire confiance. Qu'il soit à Paris ou en province, Jules Michelet reste le même. Ainsi, dans sa préface du Peuple, il retrace ses origines modestes. Né le 5 Fructidor en 6 ou le 21 août 1798, comme une herbe sans soleil entre deux pavés de Paris, ce titi parisien est le fils d'un imprimeur qui a fait faillite sous le Premier Empire. Il a connu la souffrance au travail en assemblant des petites lettres de plomb dans la presse familiale, dans un sous-sol humide et glacé l'hiver. Il connaît la pauvreté, mais vit de latin et d'amitié, comme il dit, grâce à ses parents qui ont tout fait pour qu'il fasse des études. Une fois enseignant, il s'installe dans son faubourg, près du cimetière du Père-Lachaise, cet amphithéâtre d'une époque sans Dieu, car la mort le fascine. À l'école normale, il se souvient avec émotion de ses étudiants, ces jeunes générations aimables et confiantes qui croyaient en lui, le réconcilient avec l'humanité, avant de conclure sa courte biographie en disant « Je suis resté peuple, un peuple de barbares. Le mot me plaît, explique-t-il, je l'accepte, barbare, oui, c'est-à-dire plein d'une sève nouvelle, vivante et rajeunissante. » Naturellement, dans l'esprit de Michelet, le peuple va vivre son époque glorieuse et atteindre un statut de sainteté lors de la Révolution française, dont il va commencer l'écriture de l'histoire en 1846 pour ne la terminer qu'en 1853. Comme toujours chez Michelet, les événements de sa vie résonnent dans son travail. Lorsqu'il apprend la mort de son père, Fursy Michelet, le 18 novembre 1846, « J'étais au pied de la Bastille, je prenais la forteresse, j'arborais sur les tours l'immortel drapeau », écrit Michelet. Il sent l'urgence de recueillir la parole des derniers témoins de cette tradition orale qui descendent un à un dans la tombe. L'inhumation chrétienne de son père fait horreur à Jules Michelet, qui dénonce l'asservissement à l'Église. Il suffoque de voir sa dépouille s'enfoncer dans la terre froide et visqueuse, lui qui rêve des funérailles lumineuses des Perses, le cadavre placé sur un rocher, jusqu'à ce que le soleil le dessèche. Ce dégoût du christianisme sera l'une des grilles d'analyse de sa Révolution française, qui fonde sa légitimité sur le droit et la justice et non plus sur la grâce. Cette grâce, précisément symbole de faveur et d'arbitraire, qui était accordée par des rois considérés comme des élus de Dieu. Non, la Révolution fonde bien une nouvelle religion dont Michelet se fera généreusement l'apôtre. Et pourtant, que de périls pour le Haroun Taziev de l'histoire. C'est une marche sur les scories des volcans, le long des cratères. Le terrain blesse ou croule et pourtant il faut aller vite pour ne pas trop perdre de vue l'unité du voyage, écrit-il, comme électrisé par son œuvre. Après avoir traversé les massacres de septembre 1792, « Je vais au tribunal révolutionnaire, c'est-à-dire à la guillotine », écrit Michelet, « dont la plume boit l'encre et le sang en même temps. Puis, j'entre péniblement dans la ténébreuse horreur de 93 et l'énigme Robespierre qui représente cette révolution glacée qui ne chante plus la fête de la Fédération et dont il raconte la fin. Un valet de la guillotine arracha le bandeau qui soutenait sa pauvre mâchoire brisée. Il poussa un rugissement. On le vit un moment pâle, hideux, la bouche ouverte toute grande et ses dents brisées qui tombaient. Puis, il y eut un coup sourd. Ce grand homme n'était plus. Mais alors qu'il écrit dehors, on entend les premiers échos de la Révolution de 1848.
Et c'est justement ce que nous allons découvrir dans la suite du récit. Vous écoutez Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern qui nous raconte aujourd'hui la véritable histoire de l'historien Jules Michelet, le père du roman national. A tout de suite, excellent après-midi sur Europe 1.
Europe 1, 15h-16h.
Historiquement Vôtre.
Tout savoir sur le reconditionnement des voitures d'occasion avec Autosphère. Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre expert auto. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'un véhicule d'occasion reconditionné ?
Alors, c'est comme un véhicule d'occasion qui serait sorti d'usine. Il a suivi un processus de rénovation pour retrouver sa première jeunesse. Mm-hmm. C'est ce qu'a fait Autosphère en mettant au point un parcours très rigoureux de remise en état qui se finit par une vérification qualité sur 100 points de contrôle.
Et que garantit Autosphère dans sa démarche de reconditionnement ?
Alors souvent, avec l'achat d'une voiture d'occasion, on a peur des défauts cachés du véhicule, des coûts d'entretien.
C'est vrai.
Eh bien, grâce à un reconditionnement minutieux, Autosphère assure une qualité irréprochable et la fiabilité de ses véhicules. Et il y a même une garantie de 12 mois minimum incluse, valable dans ses 250 concessions en France.
Ça, c'est rassurant.
Ah oui, et Autosphère permet aussi à ses clients de se faire rembourser sous 30 jours ou 1000 km s'ils ne sont pas satisfaits, ce qui est un vrai gage de confiance. Et les conditions sont sur autosphère.fr.
Merci Laurent pour ces explications.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Une série de crimes hors normes. Un réalisateur fou retiré dans ses montagnes. Une étudiante en cinéma trop curieuse. Pour l'inspecteur Servaz, l'horreur vient d'entrer en scène. Découvrez Un œil dans la nuit, un thriller glaçant de Bernard Minier aux éditions Pocket.
Quand vous avez un brique de glace, ça vous paraît compliqué à gérer ? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Europe 1, le journal permanent.
Il est 15h26 sur Europe 1. Vous écoutez Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern qui nous raconte aujourd'hui Jules Michelet, le père du roman national.
Mais juste avant, retour dans le présent avec le journal permanent et le rappel de l'actualité de ce lundi 22 avril. C'est avec vous, Émilie Dez.
Le sursaut, il démarre tout de suite, assure Gabriel Attal. Le Premier ministre s'est rendu à Nice pour lancer l'expérimentation d'un internat d'un genre nouveau, internat pour les élèves en décrochage. Les élèves volontaires se voient proposer des cours de soutien scolaire et d'éducation civique pendant leurs vacances. Une enquête a été ouverte. Le chanteur Kenji Girac a été blessé par balle la nuit dernière à Biscarrosse. Le chanteur, touché au thorax, a été transporté conscient à l'hôpital de Bordeaux. Kenji Girac se dit victime d'un accident domestique. Les obsèques du jeune Philippe, 22 ans, tué la semaine dernière à Grande-Synthe, auront lieu mercredi à 14h30. Deux mineurs âgés de 14 et 15 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire vendredi pour assassinat. Donald Trump est arrivé au tribunal de Manhattan. L'ancien président américain est accusé d'avoir trafiqué ses comptes pour acheter en 2016 le silence de l'actrice X Stormy Daniels. Il risque une peine de prison à 7 mois de l'élection présidentielle. Et puis près de 6 mois après l'attaque du 7 octobre, le chef du renseignement militaire israélien a démissionné. Il dit assumer sa responsabilité d'avoir échoué à prévenir l'assaut du Hamas. Israël promet d'augmenter la pression militaire et politique sur le groupe terroriste. Notez que Jean-Luc Mélenchon tiendra ce soir une conférence à Sciences Po Paris. Le leader de la France insoumise, privé de conférence à Lille, a placé la situation à Gaza au centre de la campagne de son parti pour les européennes de juin. C'était Émilie Dez sur Europe 1 et retour de l'info dès 16h, juste avant Sophie et les copains.
Europe 1, 15h-16h, Historiquement Vôtre.
Et pour le moment sur Europe 1, Stéphane Bern nous raconte dans Historiquement Vôtre la véritable histoire de l'historien français le plus célèbre du 19e siècle, Jules Michelet, qui alors qu'il compose sa monumentale histoire de la Révolution en parallèle de son histoire de France, entend de son appartement parisien les premiers échos de la Révolution de 1848.
Le 24 février, le peuple envahit les Tuileries et le roi Louis-Philippe abdique. La Deuxième République est proclamée, le nom de Michelet circule dans les premières listes du gouvernement provisoire. Mais que voulez-vous ? En pleine Révolution de 1848, lui est en train de faire celle de 1789. Michelet se voit donc contraint de refuser la proposition. Il le sait, ses livres ont fait de lui un penseur de cette révolution qu'il avait pressenti en allant donner ses cours à la princesse Clémentine dans ce palais des Tuileries au décor compassé. Joie et tristesse, écrit Michelet dans son journal. Jusqu'ici, je faisais la révolution. Maintenant, je la vois, je la subis, je l'applaudis. Mon rôle est passif. Après l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte comme député le 4 juin 1848, l'historien voit défiler avec dégoût un cortège bonapartiste. Je viens de voir des milliers de bipèdes attendant pour les gouverner, un idiot qui a laissé deux fois sa parole en gage. Le ton est donné. Après son élection comme président, le 10 décembre 1848, l'idiot, pour reprendre les mots de Michelet, se proclame empereur après son coup d'État du 2 décembre 1852. Le lendemain, Michelet file aux archives nationales et se prend le bec avec le garde général, un nommé François de Chabrier, un ami du nouvel empereur. Michelet, qui ne cache pas son agacement, lui reproche d'avoir été à l'Élysée la veille au moment du coup d'État. L'huissier raconte que Chabrier est devenu vert de rage et lui a crié « Allez me chercher mes pistolets, je veux tuer ce misérable !» Michelet, en proie à une fureur indicible, prend lui aussi le pauvre huissier à partie. « Allez, cherchez la garde pour arrêter ce vieux fou !» Bref, vous l'aurez compris, Michelet ne remettra plus jamais les pieds aux archives et naturellement, il refuse de prêter serment à l'empereur. C'est le début pour lui d'une période de repli qu'il débute à Nantes avec sa muse Athénaïs Mielaret, qu'il a rencontrée un jour de 1848 et qui a illuminé sa vie. Elle devient sa seconde épouse après la mort de Pauline Rousseau en 1839, avec qui il a eu deux enfants, Adèle et Charles. Lorsqu'il voit entrer cette institutrice dans son appartement de la rue d'Assas, ce 8 novembre 1848, elle lui fait l'impression d'un petit oiseau blessé qui fait fondre le cœur du grand homme. Voici que m'arrive un matin cette jeune fleur parée de ses larmes si touchantes de malheur, de courage et de raison, écrit Michelet peu après. Le 2 décembre, il la demande déjà en mariage et son cœur s'embrase lors d'une promenade aux Tuileries le 10 décembre, le jour même de l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte. Le grand historien, indifférent aux grands soubresauts de l'histoire en marche, roucoule comme une colombe. « Je vis de vous, je suis malade de vous », lui répète-t-il enflammé, admirant toutes les parties de son corps comme s'il s'agissait de joyaux. Après leur mariage, le 12 mars 1849, Michelet s'inquiète du blocage sexuel de sa femme et, loin de lui en vouloir, la chouchoute encore plus. On le voit consulter les médecins avec elle et il ne perd pas une miette de consultation gynécologique. Il ouvre sur son bureau des livres d'anatomie afin de comprendre la constitution interne de ce sexe féminin qui ne veut pas le recevoir et pleure d'émotion, croyant voir le portrait intérieur de la personne que j'aime tant, la matrice surtout, précise-t-il. À force d'attention, les choses se débloquent. Et Michelet s'en donne à cœur joie, parfois plusieurs fois par jour. Vous pouvez l'imaginer, mais cette déification de sa femme devient, comment dire, un peu pesante pour Athénaïs qui parfois se rebiffe. Mais quoi de plus normal ? Le biographe, pensera-t-on, devrait épargner ces détails à son lecteur, explique notre invité Paul Petitier. Rien n'est moins sûr, car ils ont une relation directe avec le monde de pensée de l'historien à partir de 1845. En effet, Michelet récuse les frontières entre pensée savante et instinct populaire, et encore plus entre le corps et l'esprit. L'un nourrit l'autre pour son plus grand bonheur. Cet amour pour Athénaïs rejoint son amour des femmes qu'il sublime dans ses livres comme « L'amour » paru en 1858 et « La femme » l'année suivante, quitte à passer dans la presse satirique pour un vieillard libidineux et obscène, comme elle le qualifie. Mais qu'importe, c'est l'historien de ces femmes actrices de l'histoire qu'il devient en publiant « La sorcière » en 1862, un ouvrage dans lequel il réhabilite leur rôle au Moyen-Âge comme médecin des âmes et des corps. Si la femme enfante des songes et des dieux, l'horizon de Michelet s'ouvre davantage encore par ses lectures naturalistes, et notamment les livres de Geoffroy Saint-Hilaire qui voient une unité biologique entre tous les êtres vivants. Lorsque Michelet publie « L'oiseau » en 1858, l'historien Hippolyte Taine souligne que ce dernier livre n'est qu'un chapitre ajouté au livre du peuple. L'auteur ne sort pas de sa carrière, il élargit sa carrière. Il avait plaidé pour les petits, pour les simples, pour les enfants, pour le peuple. Il plaide pour les bêtes et pour les oiseaux. Suivront l'insecte en 1857, la mer en 1861 et la montagne parue en 1868, faisant de ce grand historien un précurseur de de la pensée écologique.
Et restez bien avec nous sur Europe 1. Stéphane Bern nous raconte la suite et la fin du destin de Jules Michelet, le père du roman national. Et nous retrouverons ensuite, avant 16h, l'invité d'Historiquement Vôtre, de ce lundi après-midi, Paul Petitier, spécialiste de son œuvre. A tout de suite dans Historiquement Vôtre, de 15h à 16h sur Europe 1.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1 au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Gérard Larcher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence.
C'est le son qui a marqué l'actualité cette nuit. Au moins 3 explosions comme celle-ci entendues dans le centre de l'Iran.
La question de l'autorité est posée depuis si longtemps qu'il est largement temps de passer des intentions aux actes.
Les faits, c'est quoi? C'est une jeune fille qui ment, qui dit qu'elle a été agressée, qu'elle a été violentée par un enseignant, donc clairement qui lui met une cible dans le dos.
La violence, la faute à qui? Aux parents, oui, débordés ou qui laissent faire.
2 387 000 à écouter Europe 1 tous les jours. Merci, encore merci de votre fidélité. À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
Tout savoir sur le reconditionnement des voitures d'occasion avec Autosphère. Vous souhaitez une voiture au prix de l'occasion, mais avec une fiabilité irréprochable? Rendez-vous dans un instant.
Chez Poltrone Sofa, le confort est surprenant. Découvrez Savazza et laissez-vous étonner par ses dossiers réglables en un seul geste.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 536 €.
Venez vous étonner en magasin. Poltrone Sofa, solo divan de qualité.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin.
Europe 1,
15h, 16h.
Historiquement vôtre.
Excellent après-midi à l'écoute d'Europe 1 et Stéphane Bern qui retrace aujourd'hui le destin de Jules Michelet, le père du roman national, le père de l'histoire de France, qui s'avère être non seulement un grand historien, mais également un précurseur de la pensée écologique.
Lorsque le 28 mai 1867, Jules Michelet met un point final au dernier volume de son Histoire de France, il se sent vide et orphelin. Celui qui a vécu l'histoire par procuration envisage désormais les dernières années de sa vie comme un long cri d'amertume. Même si son corps commence à dérailler entre la toux et les migraines, il se reprend et pense déjà à écrire un livre des livres qui expliquerait son œuvre. Mais surtout, il plonge comme un forcené sur son histoire du 19e siècle qu'il a traversée un peu comme un spectateur et qu'il déteste. Il y voit le temps des masses, des grandes usines, des casernes, de la propagande, du culte pour des héros malades comme les Bonaparte, un monde industriel qui annonce les grandes boucheries du 20e siècle. Au soir de sa vie, Jules Michelet, en imitant Rousseau, raconte sa vie simple et son émerveillement pour la nature. Quelle différence, pense-t-il, entre le peuple des humains et celui des fourmis ou des abeilles? Dans son journal, il croit avoir tué un bourdon qui reprend finalement son envol après une heure d'immobilité. C'est ce qui va arriver à Michelet à Pise, en Italie, lorsqu'il est frappé d'une syncope le 30 avril 1871. Une syncope dont il se remettra comme son bourdon, en délirant cependant. Puis, malgré ses malaises, il croit ressusciter à Florence, en Italie, où il fait une nouvelle attaque le 22 mai, qui lui fait perdre cette fois la parole. Il a l'apparence d'un homme frappé par la foudre, à la fois mort et vivant, un entre-deux où l'imaginaire peut s'engouffrer. Mais son épouse lui cache les tragiques événements parisiens, la semaine sanglante, sinon ce serait le coup de grâce. Le bourdon qui avait à nouveau ressuscité après ce deuxième malaise s'éteint finalement à hier, le 9 février 1874, à l'âge de 76 ans. « J'ai bu trop du sang noir des morts », écrivait-il, en pleine composition de son opus sur la Révolution française, comme pour justifier ce long discours ininterrompu de 60 volumes qui rassemble toutes ses œuvres et qui fait incontestablement de ce génie prophétique le père de l'histoire moderne et de notre roman national.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Jules Michelet, le père du roman national dont historiquement vôtre sur Europe 1, Stéphane Bern reçoit aujourd'hui Paul Petitier, professeur de littérature à l'Université Paris-Cité et spécialiste de son œuvre.
Paul Petitier, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Jules Michelet a écrit l'histoire, il l'a façonné aussi, on vient de le voir. Pour vous, de quelle façon l'a-t-il marqué?
Il a marqué l'histoire parce que il a su, comment dire, la faire résonner émotionnellement dans le cœur de ses lecteurs. Et cette dimension affective était très importante à une époque où, finalement, le rapport au passé n'allait pas de soi pour tout un chacun. d'une certaine manière, sous l'Ancien Régime, c'était les nobles qui étaient des héritiers d'une lignée, donc pour qui le passé était quelque chose de consubstantiel à leur propre existence. Mais pour les hommes et les femmes du peuple, le passé devait s'arrêter assez vite. Et il construit son histoire comme une mémoire collective qui fait que les hommes et les femmes du peuple seront des héritiers d'une aventure collective et s'en sentiront partie prenante. Et je pense que c'est très important pour le rapport au monde et à la société d'avoir cette espèce de profondeur comme ça derrière soi et de se sentir donc ancré dans les siècles passés.
Paul Petitier, quelle idée Jules Michelet se fait-il de sa mission en tant qu'historien ?
Je dirais, pour le résumer d'une formule, que c'est ressusciter le passé pour permettre d'inventer l'avenir. C'est-à-dire que dans cette entreprise, puisque le terme de résurrection est celui qu'il a choisi pour désigner sa manière de faire l'histoire, dans cette entreprise de résurrection du passé, il y a aussi une dimension critique. C'est-à-dire que, comme je le disais à l'instant, il s'agit de faire comprendre que l'histoire a été quelque chose de vécu et pas seulement une succession d'événements ou une succession d'idées qu'on pourrait philosophiquement interpréter, mais que l'histoire a eu une dimension charnelle, une dimension de lutte aussi, et d'analyser les dérapages. Il le fera dans son histoire de la Révolution, qui est dans un premier temps portée par l'enthousiasme de 89, l'ouverture des États généraux, la prise de la Bastille, le moment où les femmes vont chercher le roi et la reine à Versailles, la fête des fédérations, tout ça c'est porteur d'enthousiasme, mais Michelet saisit très bien les tournants qui font que cet événement va petit à petit prendre une allure plus violente et peut-être aussi du fait des obstacles intérieurs et extérieurs s'acheminer vers des événements plus tragiques et essayer d'analyser les raisons qui font qu'il n'a pas pu être la véritable apothéose du genre humain qu'il aurait dû être. Et donc cette manière d'aborder le passé, donc à la fois en nous replongeant dans la vie des hommes du passé, mais en analysant aussi les faux pas, je crois que c'est pour lui le rôle fondamental de l'historien.
Il est sans doute, Jules Michelet, sans doute l'historien le plus célèbre du 19e siècle, mais en quoi on peut dire qu'il a renouvelé la discipline de l'historien moderne ?
Alors, il y a quelque chose de très important, qu'il est sans doute le premier, alors disons l'un des premiers pour être prudent, c'est que quand il commence vraiment à s'impliquer dans l'écriture de l'histoire de France, c'est le moment où il est nommé directeur de la section historique des archives, comme votre récit l'a rappelé. Et il va opérer une jonction, dans le fond, entre les études historiques et l'exploitation des sources d'archives. Ce qui n'était pas possible dans la période précédente parce que les archives avaient une dimension politique sous l'Ancien Régime. C'était le dépôt de certains actes, chartes, sur lesquels s'appuyait le pouvoir des rois. À cause de cette importance juridique, diplomatique des documents d'archives, il n'était pas question qu'ils soient exploités.
On ne les consultait pas.
On les consultait, mais dans la perspective d'assurer certains droits ou certains privilèges. Mais il n'avait pas d'exploitation scientifique. Donc en 1830, c'est ce que son poste aux archives va lui permettre d'envisager. Ce qui, au départ, ne va pas de soi. Quand il commence en dépouillant les archives médiévales, puisqu'il écrit l'histoire du Moyen-Âge, c'est à celle-ci qu'il s'intéresse en premier lieu. Donc à ce moment-là, si vous voulez, non plus, elles sont désactivées politiquement. L'Ancien Régime s'est écroulé, ça devient des documents qu'on peut exploiter. Mais il va se heurter d'abord aux réticences de son chef, Donou, qui au début lui conteste la possibilité de publier des documents qu'il a trouvés dans les archives. Petit à petit, ça va rentrer dans les... dans les mœurs, mais en tout cas, c'est lui qui a cette qui fait cette cette jonction.
Il initie cette façon avec laquelle travaillent aujourd'hui les historiens, c'est de retourner aux sources. Et justement, quelles sont les sources qu'il explore à ce moment-là? Il va seulement aux Archives nationales de France, il ne va pas dans les archives provinciales.
Alors, si. Il est chargé en 1800, je ne voudrais pas faire d'erreur, mais 35, je crois, il est chargé d'une mission d'inventaire des archives régionales. Et donc, dans son journal, on a le compte-rendu de cette mission. On a aussi, évidemment, le compte-rendu officiel qu'il a rendu. Ce qui est absolument frappant, c'est l'état de déréliction totale dans lequel se trouvent ces archives. Il raconte qu'elles sont dans des greniers, que les hiboux et les chouettes font leur déjection sur ces tas de papiers poussiéreux. Donc, il initie aussi un grand ouvrage qui sera celui du 19e siècle. C'est celui de la constitution des archives.
En tant que telle, oui.
En patrimoine.
Est-ce qu'on peut pas dire, Paul Petitier, que d'une certaine manière aussi, il a marqué une rupture avec ce qu'on a appelé la galerie des illustres?
C'est
aussi son grand apport. On arrête de parler des grandes figures de notre histoire, les puissants, des rois et on s'intéresse aux petites gens.
Voilà. Alors, il n'est pas le seul, hein, puisque c'est justement la révolution de la discipline historique qui a lieu vers 1820, avec des gens comme Augustin Thierry, notamment, comme Guizot, comme Barante, qui vont dire l'histoire, c'est pas seulement l'histoire des têtes couronnées, mais en fait, l'histoire, c'est une sorte de travail collectif et il convient de redonner à toutes les strates sociales leur rôle dans l'action collective. Alors, ce que fait Michelet, c'est qu'il va descendre un petit peu plus bas que les autres. Les autres s'arrêtaient surtout à l'importance, au rôle de la bourgeoisie qu'il y avait dès le Moyen-Âge, avec les mouvements de révolte des communes et de conquête des droits des bourgeois des villes, contribue à la lutte contre la féodalité. Mais Michelet va montrer que sous cette couche bourgeoise, il y avait aussi le peuple qui...
Il s'intéresse aux petits riens du quotidien. Et c'est en ça qu'il innove. Autre chose, Paul Petitier, ce qu'on peut remarquer, c'est que Michelet a trouvé son style et que son œuvre se situe aussi entre histoire et littérature.
C'est, à mon avis, c'est une des causes aussi qui fait qu'il reste comme ce grand historien, une des causes de son aura historienne. C'est qu'il y a d'autres grands historiens au XIXe siècle. Guizot est un immense historien. Augustin Thierry est un historien intéressant, mais Guizot, c'est un brillant théoricien. Augustin Thierry, c'est un conteur. Mais ce ne sont pas, si vous voulez, ce sont des gens qui manient très bien le langage, mais on pourrait dire qu'il leur manque la dimension de l'art d'écrire. Et de ce point de vue, Michelet n'est pas tant un conteur que peut-être un dramaturge et un poète. Il va donner à l'histoire une dimension shakespearienne, pourrait-on dire. C'est-à-dire qu'il est...
Il donne un souffle dramatique qui emporte l'adhésion du public.
Il va construire des scènes, des tableaux historiques d'une intensité absolument inouïe, des images qui vont rester et qui vont hanter la mémoire et l'imaginaire de leurs lecteurs.
Cet après-midi, Historiquement Vôtre vous raconte Jules Michelet, le père du roman national. On continue d'en parler avec vous, Paul Petitier.
Et c'est dans un instant sur Europe 1, juste après un petit peu de musique avec ce titre iconique de Mylène Farmer, extrait de son deuxième album Ainsi sois-je, sorti en 1988. Voici Pourvu qu'elle soit douce sur Europe 1.
Ton regard au bout quand rien n'est lubrique, que ta maman t'a tout fessé. Ton goût du revers n'a rien de pervers et ton bébé n'est pas fâché. Ton gamin sutra a bien son tendage, mon Dieu que c'est démodé. En ce paysage, c'est démêlé de côté. Hey, ta majesté jamais ne te déplace sans ton petit oreiller. À jamais je suis ton unique classe, tous mes que prix à payer. Tu fais des arts et beaux derrière ton ouvrage comme un petit pantalon.
mars 1988 sortait le deuxième album de Mylène Farmer, Ainsi sois-je, et dedans ce tube, c'était Pourvu qu'elle soit douce sur Europe 1. Mylène Farmer qui, pour info, est de retour avec l'album Remix XL, un album qui contient des versions électro de ses plus grands tubes. L'après-midi sur Europe 1 où chaque jour dès 8h10 Sonia Mabrouk vous donne rendez-vous dans Europe 1 Matin pour la grande interview Europe 1 CNews, la grande interview en entretien sans concession tous les matins, donc en direct du lundi au jeudi à 8h10 sur Europe 1. Notez que demain Sonia Mabrouk reçoit Éric Trappier, président directeur général de Dassault Aviation.
Europe 1, 15h-16h,
historiquement vôtre.
Et pour le moment, c'est Stéphane Bern que vous écoutez de 15h à 16h sur Europe 1. Aujourd'hui, Stéphane Bern nous parle de Jules Michelet, le père du roman national, avec son invité Paul Petitier, professeur de littérature à l'Université Paris-Cité et spécialiste de son œuvre.
Paul Petitier, vous êtes spécialiste de l'œuvre de Jules Michelet, mais également sa biographe. Vous avez notamment publié Jules Michelet, l'homme histoire aux éditions Grasset. Sur quel type de source primaire vous êtes appuyé pour écrire sa biographie et cerner le personnage ?
Alors, on a de très riches sources. Michelet est un des premiers qui a dit qu'il était important qu'on conserve, disons, les brouillons, les archives des auteurs. Il l'a écrit dans Le Peuple parce qu'il pensait qu'après, justement, ça permettait de faire l'histoire de leur pensée. Et donc lui-même a laissé une masse de papiers qui sont actuellement consultables à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc je me suis appuyée sur le journal qu'il a tenu depuis son adolescence jusqu'à sa mort. Je me suis appuyée aussi sur sa correspondance immense. Et puis aussi j'ai consulté ses brouillons qui sont très émouvants parce que à côté des manuscrits, on a ses notes préparatoires. Alors là, à tous ceux qui nous prétendent que Michelet sortait les choses de son imagination et était un historien un peu fantaisiste, car certains ne se privent pas de le dire, je leur répondrai, allez voir ces papiers. Ces manuscrits sont passionnants pour la manière dont ils nous permettent de retracer son travail et sa démarche.
L'œuvre majeure de Jules Michelet, c'est donc sa monumentale Histoire de France, qu'il débute en 1833 et qui termine en 1869 et qui comprend 23 volumes. Quelles sont les bornes chronologiques de cette somme ? Pour lui, quand débute l'histoire de France ?
Alors, l'histoire de France débute avec les Gaulois. Ce qui, à l'époque où il écrit, ne va pas de soi. Auparavant, quand l'histoire se centrait sur les têtes couronnées, en fait, les histoires d'Ancien Régime, on les faisait démarrer avec les premiers rois mérovingiens et même avec un roi mythique.
Pharamond.
Voilà. Donc, Michelet fait remonter l'histoire de France, je dirais, au peuplement de la Gaule par des tribus celtes différentes, ces Gaulois. Et l'histoire de France commence avec ces grands corps mous et blancs, comme il dit, qui sont comme une sorte de matériaux pas encore formé. Donc ça, c'est pour le début. Et puis l'histoire de France, il la conduit jusqu'à la veille de la Révolution. Parce que ce qu'il y a d'assez frappant, c'est qu'après, l'histoire de la Révolution française, bien sûr, c'est l'histoire de France, mais il l'intitule « Histoire de la Révolution française ». Et ensuite, quand à la fin de sa vie, il essaiera de continuer l'histoire du XIXe siècle, le titre sera « L'histoire du XIXe siècle ». Donc c'est comme si avec l'histoire de la Révolution, l'histoire de France passait dans une autre dimension. Comme si il était plus difficile d'écrire une histoire centrée sur la nation à partir de la Révolution française. Comme si on ne pouvait plus écrire l'histoire de France sans l'entrelacer avec l'histoire du monde.
Mais Paul Petitier, il y a un qualificatif qui est accolé à la figure de Jules Michelet et que l'on a choisi pour d'ailleurs intituler cette émission, c'est celui de pionnier ou de père du roman national. D'abord, pour quelle raison et qu'est-ce que... Parce qu'on on se bat beaucoup en France sur cette idée du roman national.
Alors, la question elle est débattue, elle est complexe et intéressante. Je crois qu'on en fait le père du roman national par une sorte de syllogisme. C'est-à-dire que c'est un historien, c'est l'historien qui a écrit la plus célèbre histoire de France du XIXe siècle. Or, le XIXe siècle est l'époque où partout en Europe, les États, les nations vont inventer leur histoire, vont aller chercher leurs ancêtres et construire effectivement un récit, disons, national. Donc, le plus célèbre auteur d'une histoire de France, à une époque où on écrit des récits nationaux, on en conclut qu'il est l'auteur du récit national. Alors, il y a des raisons pour cela. Il y a la fameuse formule « la France est une personne ». Donc, l'histoire de France, on va l'écrire comme une sorte de roman d'apprentissage, roman d'éducation qui va montrer petit à petit la manière dont la France, en tant que nation, parvient à l'âge de sa majorité avec la Révolution française. Mais, comment dire, l'histoire de Michelet ne nous montre pas seulement des raisons d'être fiers d'être français, c'est plus nuancé. Et par exemple, à ceux qui en font le parangon du roman national, ce que je leur objecterais, c'est que dans le fond, les deux moments qui actuellement sont encore des moments clés de notre prestige national, c'est-à-dire le siècle de Louis XIV, l'épopée napoléonienne, ce sont deux périodes qu'ils traitent avec beaucoup, beaucoup d'esprit critique. Comme vous l'avez dit dans votre récit, Louis XIV, pour lui, ça n'est pas le personnage de l'histoire de France qu'il faut le plus admirer, et Napoléon encore moins. Donc vous voyez, il est à la fois le père d'un récit national, mais d'un récit national qui n'est pas le modèle de, comment on pourrait dire, de l'apologie de la gloire française.
Paul Petitier, à l'occasion des 150 ans de sa mort, les éditions Classiques Garnier rééditent cette année trois des ouvrages de Jules Michelet, Le Peuple, Jeanne d'Arc et La Sorcière. En quoi ces œuvres peuvent-elles résonner encore aujourd'hui ?
Alors pour La Sorcière, c'est évident. Hein. Oui. Avec la vogue actuelle des sorcières, et l'œuvre de Michelet va insister justement en prenant le personnage de la sorcière comme le fil central de cette histoire de la sorcellerie. Sur ce que le livre de Mona Chollet nous a, qui a eu tant de succès il y a quelques années, a nommé la puissance invaincue des femmes. Jeanne d'Arc, c'est un petit peu, comment dire, l'autre face de la sorcière, hein, parce que c'est aussi une femme qui, du peuple, qui va avoir une action déterminante dans l'histoire de France. Donc les deux vont ensemble et les deux peuvent très bien se rapporter à ce rôle des femmes dans l'histoire. Mmh. Soit en tant que victime, soit en tant que puissance d'agir. Pour le peuple est toujours un mystère, je pense. Et nous nous demandons toujours ce qui fait peuple. Et peut-être que la lecture de cette œuvre peut nous amener à réfléchir encore aujourd'hui sur cette question cruciale.
Merci beaucoup, Paul Petitier, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Jules Michelet, le père pionnier du roman national. Je rappelle que la biographie que vous lui avez consacrée, Jules Michelet, L'Homme Histoire, est parue aux éditions Grasset. Et donc votre nouvel ouvrage, La Pensée Sorcière, Jules Michelet, 1862, paraîtra le 7 mai aux éditions du CNRS.
Et avec Stéphane Bern, l'histoire continue demain sur Europe 1.
Demain, je vous raconte la bataille de Bouvines, l'acte de naissance de la France. D'ici là, bon après-midi sur Europe 1.
Et oui, après-midi que vous allez passer avec Sophie Davant. Bonjour Sophie, avec une émission spéciale musique aujourd'hui.
Oui, absolument, une spéciale musique. Il y aura d'ailleurs Magali Ripoll dans les copains aujourd'hui et 1100 euros dans le jackpot. On va retrouver notre auditrice Sophie qui a déjà trois bonnes réponses. À
bonne émission.
C'est si bon.
Charolaise.
Partenaise.
À l'orléanaise.
À la bolognaise.
À la lyonnaise.
À la mayonnaise.
À la nivernaise.
À la landaise.
À la bordelaise.
À la rochelaise.
À la marseillaise.
À la basquaise.
À la piémontaise.
À la castraise.
Façon Thérèse.
À la française.
Chaud comme la braise.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches. Oui, oui.
Visio Confucius, tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben, ta mutuelle de demain.